Bonjour et bienvenue à Dialogue Dilettante. C'est l'épisode 3 de la série 9 intitulée La théorie de la décision. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de Leonard Savage et son chef-d'œuvre de théorie de la décision intitulé The Foundations of Statistics. Ensuite, on aborde deux nouveaux paradoxes qui ont fait évoluer la théorie de la décision. Je vous rappelle qu'au dernier épisode, au 9.2, on avait parlé du paradoxe de Saint-Pétersbourg. Tandis que maintenant, on va parler du paradoxe d'Allais et du paradoxe d'Ellsberg. En guise d'illustration de ces deux paradoxes, je vais demander à Elliot de prendre des décisions sous forme de jeu. Alors, je vous inviterai à faire comme Elliot et essayer de prendre la bonne décision. Bonne écoute!
Au dernier, on a parlé de différentes choses, mais on s'était laissé sur le théorème de von Neumann-Morgenstern sur la fonction d'utilité. Puis, grosso modo, le théorème, il disait que si le décideur était capable d'ordonner ses préférences d'une façon qui respecte certains axiomes, alors on peut toujours trouver une fonction d'utilité qui va traduire les préférences en termes d'espérance d'utilité. Okay. Puis là, on va sauter à 10 ans plus tard, donc en 1954, Leonard Savage, qui est un mathématicien, statisticien américain, va publier un livre qui s'appelle « The Foundation of Statistics ». Puis on voit un peu, avec le titre, que la théorie de la décision s'était encore vue comme une branche de la statistique à l'époque.
Ouais, OK.
Puis lui, il va s'intéresser...
Puis aujourd'hui, c'est considéré comme peut-être une...
C'est une branche à part qui est étudiée dans plein de domaines, dans le fond. Comme en stats, dans mon bac à l'UDM, si tu fais le bac orientation statistique, tu auras un cours de théorie de la décision. Mais les chercheurs en théorie de la décision, ils vont en avoir dans des départements d'économie, de finance, de recherche opérationnelle, un peu partout.
Je comprends.
Okay? C'est plus comme une technique ou une méthode.
Puis ils vont utiliser les mêmes fondements
que,
par exemple, la branche de la statistique, mais appliquée à leur, à leur domaine.
Exact.
OK. Cool.
OK. Fait qu'est-ce qu'il a fait Savage? Ben, il a reformulé les axiomes de von Neumann-Morgenstern. Puis, lui est parti vraiment d'un fondement philosophique. Comme il s'intéressait à comme c'est quoi une probabilité, des choses comme ça. Puis, il va voir un peu la théorie de la décision comme une clé dans ce problème-là. Donc, lui, ça va être ce qu'on peut qualifier d'un Bayésien, si on veut. Comme, il va croire que les probabilités, ce sont des croyances subjectives que les gens ont sur le monde. Puis, à partir de ça, il va reformuler un peu le théorème de von Neumann-Morgenstern, puis il va développer ça, puis il va montrer comment ça s'applique dans différents problèmes de stats, des choses comme ça.
OK.
Donc, ce qui est vraiment important, c'est qu'il va... à partir de lui, on va prendre ses axiomes plutôt que ceux originalement posés par von Neumann et Morgenstern. Puis, pour faire évoluer la théorie, pour faire évoluer la théorie de la décision, le prochain point, ce sera celui où quelqu'un s'attaque à un des axiomes. Okay? Donc, cette attaque-là va venir d'un économiste et physicien qui s'appelle Maurice Allais, qui est aussi un prix Nobel.
Okay. Oui.
Puis lui, il va s'attaquer à l'axiome qu'on va appeler l'axiome d'indépendance, que je vais vous expliquer brièvement dans quelques secondes. Donc, en 1953, okay, donc c'est avant la publication du livre de Savage, mais les travaux de Savage n'étaient pas encore mis en livre, mais ils étaient connus. Là.
Okay.
Il va prononcer un discours à New York qui s'appelle « Les fondements d'une théorie positive des choix comportant un risque et critique des postulats et axiomes de l'école américaine. » Donc, il va explicitement s'attaquer aux axiomes. Donc, il va le faire en présentant un jeu où on demande au sujet de choisir des loteries. Okay? Fait que on va jouer le jeu avec Elliot.
Okay.
Fait que je vais te proposer des loteries, tu me diras laquelle tu préfères.
Okay? Parfait.
OK, fait que le premier jeu, tu as deux choix.
Mm-hmm.
La première loterie, c'est simple, tu as 100% de chance de gagner 10 000 $.
OK.
Pas mal intéressant. La deuxième loterie, t'as 15 000, t'as 90 % de chances de gagner 15 000 $ ou 10 % de chances de gagner rien. Fait que, est-ce que tu préfères prendre 10 000 $ assurés ou 90 % de chances de gagner 15 000?
OK. Mettons, si j'utilise l'espérance, puis ouais. je me dis que je fais ça à l'infini, je devrais prendre le deuxième choix.
Ouais. Donc, par l'espérance contre, te dirait de prendre le deuxième.
Le deuxième. Ouais. Par contre, je prendrais le premier.
OK, parfait.
Parce que je m'assurerais d'avoir 10 000. Okay. Je suis mieux avec un 10 000 assuré qu'avec un.
OK, moi aussi, je prendrais le 10 000. Ouais. Puis les sujets que, sur lesquels Alain a fait son test prenaient souvent le 10 000 aussi.
Ouais.
Okay. OK, maintenant, on va jouer au même jeu avec deux loteries différentes.
Oh, OK. Okay.
Fait que maintenant, tu as 10 000 avec probabilité 10 %
okay.
ou 0 avec probabilité 90. Okay. Fait que tu as 10 % de chance de gagner 10 000.
Okay.
Ou, dans la prochaine loterie, tu as 9 % de chance de gagner 15 000. Fait que tu prends-tu 10 % de chance de 10 000 ou 9 % de chance de 15 000?
c'est la même chose. C'est la même chose que l'autre dans un. Dans le, OK. Ben là, je prends le 9%. C'est cave, mais c'est ouais. la même chose que l'autre, mais je prends okay. le 9%.
C'est ça. OK. Ben, la plupart des gens feraient ça aussi. Puis tu viens de violer un des axiomes
ouais.
okay, qu'on appelle l'axiome d'indépendance. Okay? Je vais essayer d'expliquer c'est quoi. C'est un peu technique.
OK. Ouais.
Fait que tu me diras si tu es capable de comprendre.
Ouais.
Fait que l'axiome d'indépendance, il dit que si tu préfères, disons, la loterie X à la loterie Y,
mm-hmm.
okay, et puis que je mélange la loterie avec une loterie quelconque Z,
mm-hmm.
okay, que si je mélange X avec Z, tu devrais préférer ce mélange-là au mélange de Y avec Z. Okay. Fait que l'axiome, il dit, si je préfère X avec Z, X avec par rapport à Y, que j'ajoute la loterie Z dans le mélange, ça devrait pas changer la préférence.
Mmh.
Je sais okay. pas si tu me suis.
Non.
Peut-être faudrait que je t'explique c'est quoi un mélange.
Ouais, c'est ça.
Ben, basically, un mélange, c'est de diviser... OK. Prenons la loterie X, la loterie Y. Disons que c'est des loteries qui ressemblent à ce qu'on a fait en haut. Un mélange, ça serait de dire, OK, on va jouer à comme une loterie en deux étapes où... disons que je les mélange 50-50. Fait que tu commences par choisir... tu lances une pièce. Si c'est face, tu vas jouer à la loterie A. Si c'est pile, tu vas jouer à la loterie B.
OK.
Okay. Ben, ça, c'est un mélange. Okay? C'est comme superposer une loterie avec une autre.
Ouais.
Je sais pas si ça a du sens.
Ouais.
OK. Là, l'axiome, il dit, OK, si je préfère X à Y, ben de mélanger X avec Z puis de mélanger Y avec Z dans les mêmes proportions, ça devrait pas changer ma préférence.
Okay.
Je devrais préférer le mélange de X et Z par rapport au mélange de Y et Z.
C'est ça, OK. Mais dans ce cas-là, c'est...
Tu me suis?
Ouais.
Ça, c'est un axiome que tu as besoin pour prouver le théorème de von Neumann-Morgenstern.
OK. Mais ça, par exemple, dans le choix que tu me dis, dans le fond, c'est un peu ça qui vient d'arriver.
C'est
dans
ça.
Dans le choix que tu me dis. Comme la proportion entre un et l'autre était la même, la proportion que je perds... Mettons,
mm-hmm.
j'ai l'impression, là, je suis pas sûr, mm-hmm. tu me corrigeras si j'ai tort. Tu sais, dans le premier exemple que tu as dit, j'avais 90% de chance, mettons, dans le deuxième,
mm-hmm.
soit 10% de chance de. En tout cas. Dans l'autre, c'est la même chose. C'est juste que mon risque, mon aversion, comme mon ouais. risque d'avoir zéro est présent aussi dans le premier choix.
Ouais.
Ce qui faisait en sorte que là, je suis comme ben là, si le risque d'avoir zéro est quand même présent, ben là, je vais quand même décider de prendre la proportion la plus élevée.
Mais c'est exactement ça, OK? On peut montrer assez facilement, puis là, c'est un peu dur parce qu'on est à l'oral, mais dans le deuxième jeu qu'on a joué, quand je t'ai offert 10 000 avec probabilité 10, puis 15 000 avec probabilité 9 %, ces deux loteries-là sont des mélanges. Donc, la loterie 10 000 avec probabilité 10 %, c'est un mélange de la première loterie en haut avec une loterie qui te donne juste rien 100 % mm-hmm. du temps.
C'est ça.
Puis la loterie qui te donne 15%, 15 000 avec probabilité 9%, c'est un mélange de la loterie du problème en haut avec la loterie qui te donne juste zéro tout le temps.
Mm-hmm.
Okay? Fait que selon l'axiome, okay, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave si les détails sont pas clairs, mais selon l'axiome, si tu as choisi A en haut, tu aurais dû choisir la première loterie en bas aussi.
C'est ça. Ouais. Okay?
Mais t'as renversé ta préférence. Puis Alain, il va pas crier au meurtre. Là. Il va pas être comme c'est la fin du monde. Il va juste dire c'est parce que dans les faits, on se concentre sur la prime de risque. Parce qu'on a une aversion au risque.
Ouais.
Donc, ce qui arrive dans le premier exemple, c'est que tu serais con, entre guillemets, de ne pas prendre les 10 000 garanties, même si ton espérance est plus basse que si je te donnais 15 000 avec probabilité 90%.
C'est ça. Ouais.
Mais dans
le fond, c'est comme, puisque c'est un one-time deal, mm-hmm. c'est mieux de prendre celui que c'est garanti. Par contre, si tu me demandais, si tu pouvais prendre ce choix-là chaque jour,
ouais.
je prendrais le deuxième. Tu sais.
Exact. Fait que lui, ce qu'il va montrer, ce qu'il va dire, c'est qu'il faut une notion de prime de risque. Peut-être. Ouais. Okay? C'est parce que il va dire, c'est un peu comme une heuristique que je racontais tantôt, c'est que pour prendre ta décision, tu vas te concentrer sur la prime de risque. Okay? Si je te dis tu as 10% de chance de gagner 10 000 versus 9% de chance de gagner 15 000, mm-hmm. tu as une bonne prime de risque. C'est comme, OK, je diminue de 1% ma probabilité que ça arrive, mais en prime, mon montant va augmenter de la moitié. Genre, ouais. On va passer de 10 000 à 15 000.
Exact. C'est ça.
C'est pour ça que ton intuition, même si tu peux le calculer explicitement l'espérance, puis tu vois que c'est pas le meilleur choix, ton intuition te dit de pas faire ça.
Mais c'est pour ça que quand tu m'as posé la deuxième fois, je suis comme, OK, je comprends que c'est la même chose.
Mm-hmm.
Genre, si je l'ai dit explicitement, je sais que c'est la même chose, mais je prends l'autre parce qu'il y avait comme...
Exact.
Okay.
Fait que ça a été un paradoxe important parce que là, on peut essayer de formuler des différents axiomes. Une façon qui est faite, c'est comment je peux dire? On va affaiblir l'axiome, donc on va prendre un axiome plus faible, mais qui nous permet quand même de trouver le théorème de von Neumann-Morgenstern avec la fonction d'utilité. Donc ça, c'est une des avancées. Puis il y en a d'autres, là. Puis il y a plein d'autres modèles qui vont sortir avec des différents axiomes. Puis...
OK.
Et donc ça, c'est...
Puis en fait, tu sais, de façon... lui, dans le fond, est-ce qu'on va utiliser ces modèles-là pour prendre de meilleures décisions par la suite ou...
Qu'est-ce que tu veux dire exactement?
Ben, c'est parce que là, dans le fond, lui, ce qu'il explique, c'est peut-être plus un phénomène humain.
Ouais, exact. Il va dire que la théorie s'applique peut-être pas si bien dans la,
okay.
la réalité.
Ouais, je comprends. C'est bon.
OK, puis c'est ça. Il y a comme deux volets, si on veut, deux grands volets à cette étude-là. Il y a comme la partie mathématique, puis il y a la partie, OK, est-ce que ça les gens respectent vraiment les paradigmes ou non? OK, ensuite, le prochain, ça s'appelle le paradoxe d'Ellsberg. Okay, ça, c'est paru en 1961
okay.
Dans un article qui s'appelle « Risk, Ambiguity and the Savage Axioms ». Donc, on voit qu'il se réfère à Savage. Puis là, ici, l'idée... Bon, l'exemple que je vais donner n'est pas très paradoxal, okay, mais il y a comme deux paradoxes d'Ellsberg. Il y en a un qui est plus paradoxal, mais il va plutôt servir à montrer un concept. Okay. Fait que l'idée d'Ellsberg, c'est de dire, OK, mais il existe des situations où on n'est pas capable de formuler des probabilités sur les états du monde. On n'est pas capable de dire c'est quoi les probabilités que les choses arrivent.
Okay.
Fait que qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Okay? Okay. Je peux donner un exemple vraiment simple.
Okay? Parfait.
Tu as deux urnes.
Okay? Okay.
Fait que, encore une fois, tu vas jouer à deux jeux.
OK, parfait. Nice, j'aime ça.
C'est quand même facile. La première urne, elle a 100 boules. 50 boules rouges, 50 boules noires.
Okay? OK.
La deuxième urne, elle a 100 boules, mais je te dis pas il y en a combien de rouges puis il y en a combien de noirs.
OK. Puis est-ce qu'il y a juste des rouges et des noirs?
Ouais.
OK.
OK. OK, fait que là, je vais te donner des situations puis tu me dis lesquelles tu préfères. Okay? Fait que je te donne le premier jeu, on va l'appeler 1A, qui dit que si tu as choisi l'urne A, je te donne 1$ si tu piges une boule rouge. Puis 0 okay. sinon. Okay? Puis le jeu 2A, encore une fois, c'est si tu as choisi l'urne A, je te donne 1$ si tu piges une boule noire. Puis 0 okay. si tu piges une boule rouge.
Okay.
Fait que ces deux jeux-là devraient être
Again.
Indifférents parce ouais. qu'il y a autant de boules rouges que de noires, fait que tu t'en fous.
Ouais.
Parfait. Mais si tu choisis l'urne B, okay, Même chose, je te donne 1$ si tu piges une boule rouge, 0 sinon. Ou je te donne 1$ si tu choisis une boule noire, 0 sinon. Puis encore une fois, les deux devraient pas.
Ben, on sait pas. Parce qu'on sait pas. On peut assumer que c'est 50-50. Okay.
Fait que là, maintenant, la question, c'est tu préfères-tu jouer dans l'urne A ou jouer dans l'urne B? Tu préfères-tu jouer dans l'urne que c'est 50-50 ou l'urne que t'as aucune idée?
Ben, moi, j'ai pas de préférence.
T'as pas de préférence?
Moi, c'est indifférent parce que on peut assumer que l'autre, c'est 50-50.
OK. Ben, dans l'expérience qu'Ellsberg a fait, la plupart des gens préféraient prendre l'urne A, okay, où est-ce qu'on connaît les probabilités.
Ouais.
Okay. Puis ça, il va appeler ça l'aversion à l'ambiguïté. Puis ça va être un point tournant parce que on va s'intéresser à la notion d'ambiguïté, qui va être une notion plus complexe que l'incertitude. Donc, on avait dit plutôt que comme l'incertitude ou le risque, on modélisait ça comme des distributions de probabilités.
OK.
Okay? Mais là, l'ambiguïté, ça va être quand le décideur n'est pas capable de formuler une distribution de probabilités. Comment il va prendre ses décisions?
Okay? Mm-hmm.
Donc, dans l'urne B, tu ne sais pas c'est quoi la répartition des boules. Fait quelle probabilité tu vas associer à obtenir une boule rouge ou obtenir une boule noire?
Ouais, mais peu importe. C'est ça. Peu importe. Mm-hmm. Les chances vont, d'après moi, vont rester les mêmes. Non?
Ben, c'est parce que là, toi.
Pas peu importe la probabilité du truc, mais mm-hmm. si on ne sait pas, mettons, puis mm-hmm. c'est randomized,
mm-hmm.
les chances.
Mais on ne sait pas que c'est randomized. Toi, tu peux supposer que c'est randomized. Que comme le nombre de boules rouges, il est choisi au hasard. Pour mettre dans l'urne. Parce que toi, t'as aucune idée. Fait que tu vas dire, OK, supposons que c'est random.
Puis il faut choisir le jeu aussi. Il faut choisir si c'est le jeu rouge ou le jeu noir.
Ouais.
Faut que tu décides quel tu vas prendre.
C'est ça.
OK, ben je peux comprendre pourquoi.
C'est ça. Fait que ça, c'est une situation d'ambiguïté. Puis là, comme tu le soulèves, une des solutions, ça serait comme ben de supposer une probabilité, même si c'est pas la bonne, etc. Okay? Puis là.
Mais c'est quand même. Est-ce que c'est vrai que ça peut être une bonne.
Ouais, ouais. Puis en fait, une des façons que tu peux faire, puis ça devient compliqué, c'est que tu poses des probabilités sur toutes les distributions de probabilités possibles. Genre. tu vas dire, OK, il y a autant de chances qu'il y ait une boule rouge, que deux boules rouges, que trois boules rouges, que quatre boules rouges. Puis à chaque fois, ça va donner une distribution de probabilité sur l'ensemble des distributions de probabilités possibles.
Puis là, la probabilité de ça, ça va être.
Ouais, là, tu peux retomber sur ton paradigme classique.
Okay.
Bref, il y a plein de façons de comme dealer avec ça. La façon qui est comme centrale puis qui a donné lieu à une théorie qu'on appelle la théorie néo-bayésienne, qui est la théorie de la décision néo-bayésienne.
Quand tu dis bayésienne, c'est-tu bayésienne?
Ouais, ouais, exact. Okay. Excuse. Ouais, bayésienne.
Je dis pas que c'est la bonne manière de le prononcer, mais je sais que moi, je le prononce de même. Ah, je voulais savoir si on parlait de la même.
Je suis pas sûr comment on le prononce.
Okay.
C'est parce qu'en anglais, c'est juste Bayes.
OK.
Bayesian. Où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est ça. Fait qu'une des façons de régler le problème, c'est de supposer que le décideur est capable d'ordonner toutes les distributions de probabilités possibles sur les états du monde. Puis à partir de là, on va créer la même structure ou est-ce que ça va créer une fonction d'utilité, mais comme ça devient comme un plus méta, genre c'est comme on va supposer, on sait pas c'est quoi la vraie probabilité, on va supposer qu'il y a un ensemble de résultats possibles qu'on est capable de dire lequel je préfère. Fait que c'est un peu, ça devient un peu compliqué.
Ouais.
Même mathématiquement, ça demande des outils beaucoup plus sophistiqués. Comme les outils, il y a beaucoup d'outils. Je vais juste dire le nom, même si ça va probablement rien dire, comme les intégrales de Choquet. Ça a été inventé dans les années comme 40-50. Fait que ça, pour résoudre ces problèmes-là, tu as besoin des outils mathématiques beaucoup plus récents
okay.
que la théorie classique qui utilise des outils mathématiques qu'on connaît depuis longtemps. Là.
Okay.
Fait que ces deux situations-là ont comme vraiment pousser la théorie de la décision à comme se dépasser puis à s'élargir pour considérer des cas de plus en plus complexes. Puis il y a plein d'autres phénomènes comme ça. Là. Donc, parce que c'est une théorie très formalisée, mais qui essaie d'avoir... qui essaie de bien décrire le monde, ben, il y a toujours des résultats expérimentaux qui vont venir invalider la théorie et qui vont forcer la théorie à comme se raffiner.
Okay.
Okay, fait que c'est intéressant dans ce sens-là. Fait que par exemple, en économie, pour prendre des décisions optimales sur des marchés, on peut utiliser la théorie de la décision. Mais il y a des cas peut-être où nos décisions vont être facilitées par le fait qu'on a un modèle qui prend en compte l'ambiguïté, qui prend en compte qu'on n'est peut-être pas capable de donner des probabilités explicites à chaque situation.
Okay.
Même chose en sciences politiques, ils utilisent ça, finance, tu sais, les mêmes domaines que plutôt la psychologie, okay. statistique, etc.
Fait que là, ils sont rendus au point où ce que... Justement, alors, tu sais, on parlait des états du monde. Mm-hmm. Une des choses qui était importante dans les états du monde, c'était de connaître un peu la probabilité de cet état-là pour connaître les conséquences, puis ensuite, mm-hmm. Pas pour connaître les conséquences, mais pour connaître la décision, l'action à prendre.
Mm-hmm.
Mais là, si tu la connais pas, dans le fond, là, ça va être aidé un peu avec ça,
ouais.
Les nouveaux théorèmes qui vont aider à attribuer, dans le fond, attribuer une probabilité d'un état du monde
mm-hmm.
sans vraiment connaître absolument ouais. la donnée de...
C'est ça. Ça va être comment prendre une action si je sais pas il y a combien de boules rouges dans mon urne. Comment je vais décider ce qui est optimal?
Puis là, c'est comme si t'avais 250 urnes. Fallait que tu choisisses une urne à prendre le truc. Puis tu connais juste des données un peu différentes d'ici et là sur chacune des urnes. Puis le théorème va t'aider à...
La théorie, ouais, va essayer de...
Je dis le théorème, mais
ouais, ouais.
Je parle de les nouveaux aboutissements sur la,
exact.
La pensée de la décision.
Ouais, exact.
Oh, c'est intéressant.
Ouais. Donc ça, c'est vraiment les deux paradoxes. Il y en a plein d'autres là, qui ont été importants. Puis il y a plein d'autres études, surtout des études comportementales. Donc mm-hmm. je sais pas si t'es un peu familier avec l'économie comportementale, tout ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on amène des gens dans un labo, puis on leur demande de choisir des loteries, basically, là, comme je t'ai fait.
Ah ouais.
Puis on regarde si ça marche. Ouais.
Mais oui, oui, absolument. Ben, je sais. Puis aussi, souvent aussi même, j'avais vu des études comme... puis c'est peut-être pas dans la même branche,
mm-hmm.
mais c'est un peu la même chose. Ils invitent des gens à venir, puis ils mettent, mettons, quatre choix, quatre décisions,
mm-hmm.
puis ils décident quelle est la plus favorable selon eux.
Mm-hmm.
Puis des fois, ils font juste modifier des mots ou ils font juste modifier un peu de la manière de présenter le problème.
Mm-hmm.
Puis ça, ouais, ouais. ça peut être complètement différent par rapport à juste la manière dont c'est présenté.
Exact.
Tu sais, par exemple, mettons, il y avait un exemple que j'avais vu. C'est si tu demandais à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à aller magasiner au magasin de l'autre bord de la rue? Si, par exemple, ta bouteille d'eau est 1$ de moins de l'autre
ouais.
bord de la rue.
Ouais.
Le monde sont comme, ben, pas absolument, OK? Puis si ta télé... et 20$ de moins au bord de la rue, ouais. mettons. Bon, ben, ta télé à 1500, mettons.
Ah ouais.
Ben non, là, je suis déjà là, j'ai pas besoin d'aller au bord de la rue. Mais tu sais, le nombre d'argent que tu gagnes, le gain que tu gagnes est ouais. 20 fois supérieur
ouais.
au problème ouais, avant ouais. posé.
C'est comme un phénomène de anchoring, genre. C'est comme si tu compares à 1500$, tu dis ah, 20$ c'est rien.
Mm-hmm.
Mais si t'es sur une base de 1$, là t'es mm-hmm. comme ah ben oui, j'ai sauvé 1$.
C'est ça. Ouais, c'est exact. Ça. Fait que.
Mais ouais, ouais, ça c'est plus de la psychologie, mais depuis les années comme 70, la théorie de la décision est comme intimement liée aux études comportementales de psychologiques mm-hmm. de ce genre-là.
OK. OK.
OK, ben ça c'était la fin de l'histoire que j'avais. Tu sais, je voulais pas rentrer dans les détails trop techniques, là, mais donc on a fait les deux paradoxes. Puis maintenant, ce que j'aimerais faire, ce serait, dans le prochain épisode, de retourner à Pascal, puis de expliquer pourquoi c'est un problème de décision, formuler clairement son argument, le citer, voir qu'est-ce qu'il a dit exactement. Puis montrer c'est quoi les états du monde dans son problème, tout ça, tout ça.
OK, cool, merci.
Vous aimez Dialogue Dilettante? Suivez-nous sur Spotify, Google Podcasts ou toute autre plateforme de podcast que vous préférez. Vous aimeriez continuer la discussion? Rendez-vous sur YouTube ou Facebook, où nos pages, toutes les deux appelées Dialogue Dilettante, hébergent chacun de nos épisodes et commentez sous la vidéo. Que ce soit pour des questions, des commentaires ou des suggestions, Venez discuter avec Elliot et Justin, vos animateurs de Dialogue Dilettante.